Kiosque magazine.
Jeudi 22 janvier, un matin magnifique, un matin d'hiver lumineux comme on les aime et qui nous font presque pardonner le froid qui règne parce qu'il ne fait pas chaud dehors si vous avez à sortir. Mais néanmoins, nous sommes là tous les trois pour vous parler d'économie d'emploi comme Kiosque Magazine le fait tous les jeudis. Et quand je dis tous les trois, je parle bien évidemment d'Éric de Belval. Éric, bonjour.
Bonjour François.
Rémi Hermoso qui est à la mise en onde, à la réalisation, aux choix musicaux, bref, au pouvoir dans cette émission et que vous n'entendrez pas. Et moi-même, François Brodeur. Et qu'avons-nous prévu ce matin?
On va commencer par parler d'environnement. Vous savez, François, il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, proverbe bien connu. N'est-il pas de pire sot, voire de pire politicien, pardon, que celui qui ne veut pas comprendre? C'est la question qu'on pourrait se poser face aux climato-sceptiques qui semblent plus nombreux que jamais au Congrès des États-Unis. On se rappelle les propos proprement hallucinants du président Bush, fils, devant les démonstrations alarmantes des meilleurs spécialistes. C'est de la mauvaise science. Eh bien, peut-être au moment où l'espèce humaine disparaîtra de notre planète épuisée, se trouvera-t-il un sénateur pour lancer « C'est un mauvais film ». Alors, on restera aux États-Unis après pour parler des banques parce que leur rentabilité se dégrade. On a tendance à considérer l'activité bancaire comme une enclave un peu privilégiée de l'économie, à certains égards presque comme une sinécure. Et l'idée que les États sont toujours contraints de sauver les banques lorsqu'elles sont en difficulté, y compris dans le cas où elles sont elles-mêmes responsables de ces difficultés, ne vient pas contredire cette tendance. Mais il y a des seuils avant la faillite, à commencer par la perte de rentabilité. C'est ce qui semble se confirmer pour les banques aux États-Unis. Et puis pour finir en ce qui me concerne, je n'ose pas dire que ça me réjouit, mais ça me réjouit un peu. On parlera de l'échec de Google Glass. On s'y attendait un peu, mais maintenant c'est officiel. Google met un terme au programme Google Glass, en tout cas dans sa forme actuelle. Et dans un billet diffusé via Google+, le géant américain annonce la fin du programme Explorateur qui permettait aux personnes intéressées d'acquérir une version de développement des lunettes connectées pour quand même 1 500 $.
Yes!
Les ventes cesseront, là, dans les jours qui viennent. Il faut dire que les lunettes connectées de Google se sont vite heurtées à un certain nombre de réalités économiques, juridiques, ça j'insiste là-dessus, et sociétales, et le Canada n'a pas été en retard d'ailleurs là-dessus, qui ont certainement pesé dans la direction du géant américain. Voilà pour ce qui me concerne.
Et pour ma part, il est question d'acier, tiens, puisqu'il y a une nouvelle... Bon, on se rappelle tous la guerre du bois d'œuvre qui nous a opposés aux États-Unis dans ce merveilleux monde de libre-échange, où on découvre que le libre-échange, ça ne fonctionne pas de façon, comment je dirais, totalement équilibrée. Alors, ça se prépare aussi pour l'acier. On verra de quoi il retourne. On parle aussi de pratiques médicales, puisqu'en Alberta, il y a une expérience pilote qui s'étend actuellement parce qu'elle fonctionne, qui consiste à payer les médecins à l'heure plutôt qu'à l'acte. Et devinez quoi? Ça marche! Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais d'abord et avant tout, pas moyen d'éviter de vous parler de Davos, où le Gotha du monde économique et politique se réunit actuellement, et d'éviter de vous parler d'inégalité, puisque c'est le thème principal à Davos, ou du moins celui qui a été présenté en ouverture. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Bon, je vais vous parler de mes résolutions en commençant, puisque j'avais pris la résolution. Je m'étais dit, bon là, François, tu fais attention, tu essaies de pas trop parler de pétrole, de Chine et d'inégalité. Et c'est difficile parce que dans l'économie mondiale actuellement, c'est vraiment ce qui domine. Et j'ai essayé, je vous jure que j'ai essayé. Mais voilà, il y a eu Davos. Et à Davos, il y a eu cette extraordinaire étude qui a été publiée par Oxfam. Il faut savoir que la coprésidente du sommet de Davos est une présidente d'Oxfam, un organisme de développement international, donc, et elle est là avec les chefs d'État et 1500 représentants des plus grandes entreprises du monde. Qu'elle doit se sentir seule, mon Dieu! Enfin, cette étude a donné lieu à une couverture de presse monstrueuse. Vous ne pouvez pas avoir rien entendu là-dessus si vous avez ouvert une radio ou une télévision cette semaine. J'ai retenu pour vous le texte de Serge Truffaut, paru dans Le Devoir du 20 janvier 2015, « Outrage chiffré ». À 2 jours du coup d'envoi, ça a été publié le 20 janvier, donc à 2 jours du coup d'envoi, ça s'ouvrait aujourd'hui, à 2 jours du coup d'envoi donné au sommet annuel de Davos rassemblant les chefs d'orchestre de l'économie, voilà qu'Oxfam confirme que les riches n'ont jamais été aussi riches. Bref, le rapport de l'ONG britannique est l'écho parfait à cette exclamation de Warren Buffett. Nous avons gagné. Nous, les riches, évidemment. Après analyse des données accumulées par le Crédit Suisse, par, on insiste, une banque et non une quelconque association de bénévoles, Oxfam a constaté que les 1% des individus les plus fortunés détiennent 48% du patrimoine mondial. Au train où va le rythme de production et de concentration des richesses, ces mêmes personnes détiendront plus de 50% du patrimoine en question en 2016. Les phénomènes quantifiés par Oxfam sont tellement empreints d'outrage que certains d'entre eux commandent des arrêts. Les trois quarts des humains les plus pauvres se partagent 5,5% de la richesse fabriquée dans le monde. L'envers de ces méfaits économiques, de ces perversités financières est le suivant. Les 80 personnes les plus riches de la planète détiennent des richesses qui excèdent celles que l'on a abandonnées aux 50% des plus pauvres, soit tout de même 3,5 milliards de personnes. 80 personnes qui détiennent plus de richesses que 3,5 milliards d'autres. Ça fait frémir. Cela étant rappelé, on ne sera pas étonné d'apprendre que cette avalanche de rectifications monétaires ayant profité aux plus fortunés s'est accentuée depuis le début de la grande récession de 2008. Plus exactement, l'écart entre les plus riches et les classes moyennes s'est creusé depuis l'implosion des Lehman Brothers et consorts. Ces dernières n'ont toujours pas récupéré ce qu'elles ont perdu dans la débâcle évoquée, contrairement au premier. Ceci explique cela. Ce soir, dans le cadre de son discours sur l'État de l'Union, Barack Obama va annoncer, à moins d'un revirement de dernière minute, une baisse d'impôts des classes moyennes qui sera financée par une augmentation des impôts les plus riches. Enfin! Et pour mémoire, je vous dis que c'était effectivement le contenu du discours sur l'État de l'Union. À cet égard, il faut souligner et méditer les données du National Bureau of Economic Research qui révèle que la part des richesses de 90 % des Américains a décliné constamment depuis le début des années 80. Afin d'améliorer la situation financière de la grande majorité de ses concitoyens, Obama va donc proposer une réduction d'impôts. Les salaires? Après avoir porté le salaire minimum des sociétés relevant de la compétence fédérale à 7,25 $ de l'heure, Obama a vite constaté que la plupart des États n'entendaient pas le suivre, et ce, à cause notamment de la campagne orchestrée par les plus riches, qui sont aussi les bailleurs de fonds des campagnes électorales. Ce qui a d'ailleurs fait dire à Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, que les inégalités freinaient la croissance économique. Ce tableau serait incomplet si on ne traçait pas la diagonale avec l'évasion fiscale, soit ce privilège d'entre les privilèges que les États accordent aux nantis et aux entreprises. En ce qui concerne ces dernières, dans un entretien accordé au Monde, au journal Le Monde, oui, Gabriel Zucman, professeur au London School of Economics et chercheur à l'Université de Berkeley, précise « Le fait qu'il soit possible de manipuler les prix de transfert, prix de transaction entre sociétés d'un même groupe pour faire apparaître les profits dans les pays à fiscalité faible ou nulle, crée un problème économique lourd. Ces manipulations réduisent de 30 % les recettes de l'impôt sur les sociétés. » Et que dire des conventions signées sous l'égide de l'OCDE dont 34 pays sont membres? Ce ne sont que des bouts de papier prévoyant qu'un jour, peut-être, l'échange automatique de données sera mis en place. En un mot, on se moque de nous. Vous dirais-je que je suis d'accord avec M. Truffaut à un point.
Que vous nous avez décrit, François, c'est un retour au Moyen-Âge. Bientôt une corvée de nettoyage des douves de la Banque mondiale?
Mais c'est surtout une catastrophe économique en prévision, puisqu'il faut comprendre que ce qui fait fonctionner l'économie, c'est la consommation des classes moyennes. Si on les appauvrit constamment pour concentrer la richesse dans des mains qui investissent pour produire des produits que personne n'achète, on va se retrouver dans une situation catastrophique. Bon, je vous le dis tout de suite, pour les républicains américains dont on vient de parler, l'économie va bien puisque le dollar est encore vert.
Oui, il n'y a que lui qui est encore vert parce que le reste de la planète m'a l'air de se préparer à un assombrissement de ses couleurs. Alors, notre époque connaît de dignes successeurs aux brillants censeurs du réel qui bâillonnaient ou parfois qui brûlaient, ceux qui au Moyen-Âge affirmaient que la Terre n'était peut-être pas plate. Et même s'ils ont intégré la notion de planète, les mêmes puissants censeurs ont simplement changé d'argument. Il n'y a pas de problème climatique, disent-ils. Hein? Ben, c'est de quoi trembler un petit peu. Ça a intéressé Stéphane Foucard dans Le Monde du 19 janvier et il a écrit un article qui s'appelle « Les chevaliers de la Terre plate ». Le titre en dit déjà pas mal. Il est difficile d'en disconvenir. Le communiqué de presse est généralement le pire ennemi du journaliste. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par moments, il trahit si bien les arrière-pensées de ses rédacteurs qu'il dévoile involontairement des réalités incommodantes qu'il n'était pas censé soulever. Ainsi, du dernier communiqué conjointement publié vendredi 16 janvier par la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration, Hein, ces deux agences fédérales américaines annonçaient ensemble que l'année 2014 avait été la plus chaude jamais observée depuis 1880 et le début des relevés thermométriques sans doute depuis bien plus longtemps. Je crois que vraiment tout le monde est au courant maintenant. Leur texte explique bien cela, mais il présente aussi quelques incongruités, comme cette porte grande ouverte, tardivement enfoncée par John Grunsfeld, administrateur du conseil scientifique de la NASA, qui déclare « L'observation de la tendance de long terme au réchauffement et le classement de 2014 comme année la plus chaude jamais enregistrée renforcent la nécessité pour la NASA d'étudier et de comprendre le rôle et l'impact des activités humaines. » Ou, comme cet étrange plaidoyer de Richard Spinrad, scientifique en chef de la NOAA. La NOAA, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, hein, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Pardon, c'est résumé un petit peu long. Sorte de supplique qui vient se poser au milieu du texte comme un cheveu sur la soupe. La NOAA offre aux décideurs une information scientifique crédible et opportune sur notre monde en mutation. À mesure que nous observons le climat changer, la surveillance de l'environnement conduite par la NOAA est de plus en plus cruciale, déclare-t-il. Il est d'une importance critique que nous puissions continuer à travailler avec nos partenaires, comme la NASA, pour observer ces changements. Consensus scientifique écrasant. À qui donc s'adressent messieurs Grunsfeld et Spinrad ? L'actualité récente donne une réponse plausible. Les véritables destinataires de ces phrases sont Ted Cruz et Marco Rubio. Le premier est sénateur républicain du Texas, le second sénateur républicain de Floride. Le premier a été nommé début janvier président de la commission parlementaire chargée de contrôler et de superviser le travail de la NASA. Le second a pris les rênes d'une autre commission parlementaire investie de la même mission auprès de la NOAA. Et le détail qui permet de comprendre l'anxiété qui transpire du comité des deux agences américaines est le suivant. L'un comme l'autre sont climato-sceptiques. Aïe, aïe, aïe. Dans des déclarations publiques répétées, les deux élus ont clairement laissé entendre qu'ils ne donnaient pas de crédit au consensus scientifique sur les causes anthropiques du réchauffement. Anthropique, c'est-à-dire dû à l'homme. Monsieur Rubio avait même déclaré en 2011 au magazine GQ, je ne sais pas ce que c'est GQ, hein, excusez-moi, je n'ai pas la traduction, qui n'était pas sûr de ne jamais pouvoir répondre à la question de savoir si la Terre avait été créée en 7 jours ou en 7 heures réelles. On frémit hein, quand on entend ça. Ted Cruz, lui, vient d'expliquer dans un communiqué que la NASA avait été dégradée par l'affectation d'une part de son budget à la question du réchauffement. Le climat et l'observation de la Terre sont pourtant au nombre de ses missions historiques.
Oui, il y a deux drames avec le sénateur Rubio, c'est que... Il est malheureusement pas là quand il aurait dû l'être et il est là quand il devrait pas.
Oui, c'est vraiment la définition même de quelqu'un d'inutile. Rappelons-le à toutes fins utiles, la réalité du changement climatique anthropique ne relève ni d'une théorie politique ni d'une opinion parmi d'autres. Elle est le résultat d'un effort de recherche internationale inédit, d'une multitude d'observations sans équivoque et d'un consensus scientifique écrasant. Amputer les moyens d'action de la NOAA et de la NASA pourrait avoir un effet considérable sur la connaissance. Ainsi, les chercheurs de la NOAA et de la NASA qui travaillent sur le climat se retrouvent-ils dans la position délicate d'une escouade de pompiers devant rendre des comptes à un contrôleur tatillon, doutant sérieusement de l'existence du feu ? J'adore cette métaphore, je la trouve bienvenue. Ou d'astronomes expliquant leur travail devant les membres de la Flat Earth Society, c'est-à-dire l'ordre de la Terre plate. Il est bien sûr possible d'en rire, et il est vrai que la situation est assez cocasse, mais elle est aussi un désastre aux conséquences incalculables. D'une part, la NOAA et la NASA fournissent des données cardinales à l'ensemble des communautés scientifiques qui travaillent sur les questions d'environnement global et de climat. Amputer les moyens d'action des deux agences pourrait donc avoir un effet considérable sur la connaissance. De plus, la situation témoigne d'une guerre à outrance contre la science, conduite depuis quelques années par le gros des troupes républicaines. Selon un comptage effectué par l'association Climate Progress, à partir de leur déclaration publique, près des trois quarts des parlementaires républicains, qui dominent le Congrès, comme on le sait, depuis les élections de mi-mandat, sont ainsi climato-sceptiques. La situation de messieurs Cruz et Rubio n'est donc pas une anomalie, elle est la norme. James Inhofe, le sénateur républicain de l'Oklahoma, est par exemple l'auteur d'un livre au titre éloquent « Le grand canular, comment le complot du réchauffement menace votre futur ». C'est terrible ce titre. Or, M. Inhofe préside, lui, la commission parlementaire consacrée à deviner quoi à l'environnement.
Ah, chapeau, c'est hein. Angoissant.
Ce n'est pas pour rien si certains historiens des sciences aiment à placer symboliquement le début de la civilisation occidentale en 1543. C'est quoi 1543 ? C'est la publication du traité de Nicolas Copernic proposant le système héliocentrique. Héliocentrique, autrement dit, les mouvements de la Terre et du Soleil entre eux. Pour la première fois, la science cherchait à imposer sa logique aux autres institutions. le développement des sciences et des techniques et l'extraordinaire succès de l'Occident qui s'en est suivi est le fruit de cette émancipation. Ce qui se produit actuellement outre-Atlantique procède du mouvement inverse. Cela devrait nous terrifier. Moi, ça me terrifie. Je suis sûr que ça vous terrifie aussi, François. Et quand je lis ça, je me dis, on est vraiment mal placé pour faire des leçons d'obscurantisme aux autres. Parce qu'il faudrait peut-être commencer par balayer devant notre porte. Et...
Oui, il faut rappeler qu'effectivement, au Canada, actuellement, on n'a pas cessé, depuis l'arrivée du gouvernement actuel, de couper les ressources à nos chercheurs, voire fermer des centres de recherche, museler les chercheurs en les empêchant de parler librement de leurs recherches. Alors, effectivement, on est dans une situation où on n'a pas de leçons à donner aux Américains. Alors, si la situation américaine est désespérante, celle du Canada est juste plus avancée que celle-là. Ça, c'est anxiogène.
De la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien. La nature est à moi, je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce. N'aurez plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer, plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures, car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie.
Objectif Terre, Paris d'Henri Dan. On n'est pas sûr de la façon de prononcer le nom de l'auteur, mais c'est quand même un choix on ne peut plus opportun. Je vous parle maintenant d'acier, puisqu'il y a un nouveau conflit qui se dessine à l'horizon. Vous allez voir, c'est assez dramatique la situation. L'industrie de l'acier se heurte au protectionnisme américain. C'est un texte d'Éric Desrosiers paru dans Le Devoir d'hier. L'industrie de l'acier canadienne et québécoise exhorte les trois ordres de gouvernement à rendre coup pour coup devant la nouvelle montée du protectionnisme américain. Alarmée par le recours grandissant à la « Buy American » dans les contrats publics aux États-Unis, l'industrie et ses alliés ont notamment pressé mardi le gouvernement québécois ainsi que les maires de Montréal et de Québec de mettre en pratique le principe de réciprocité et d'exclure de leurs propres appels d'offres les compagnies américaines dont les gouvernements feraient obstacle au libre-échange. « Nous n'avons pas de libre-échange », a déploré le président de l'Institut canadien de la construction en acier, Ed Wallen, lors d'une conférence de presse à Montréal. « Nous avons un commerce ouvert, mais ouvert à sens unique, c'est-à-dire pour rentrer chez nous. » Courante dans le transport est toujours très populaire aux États-Unis en période de difficultés économiques, la clause « Buy American » est de nouveau à la mode, non seulement à Washington, mais aussi parmi les États américains, dont une trentaine se sont donné des lois en ce sens depuis 2012, rapporte l'Institut. Ce phénomène, affirme-t-on, a joué un rôle déterminant dans le fait que le Canada est passé de 1,4 milliard de dollars d'exportation nette d'acier de charpente et de produits connexes en 2002 à un déficit de plus de 600 millions en 2011, entraînant la disparition de 5 000 emplois. La fermeture de la fonderie Muller au Canada, à Saint-Jérôme, et la perte de 71 emplois juste avant Noël ne sont que la pointe de l'iceberg, a déclaré Éric Tétrault, président de Manufacturiers Exportateurs du Québec. La plupart de nos membres ne ressentent pas encore l'effet des nouvelles mesures adoptées par les États américains, mais ce n'est qu'une question de temps. Il commence à y avoir un parc industriel canadien pas mal intéressant à Plattsburgh, a-t-il fait valoir, évoquant le déménagement d'un nombre grandissant d'entreprises au sud de la frontière pour ne pas être disqualifiées. C'est notamment le cas de Kanamanak. Les questions de commerce sont avant tout de compétences fédérales, admettons. On saluait d'ailleurs la décision d'Ottawa lundi de se prévaloir d'une obscure disposition de la loi canadienne pour faire obstacle, et écoutez bien ça, pour faire obstacle à un exemple particulièrement absurde de protectionnisme par l'État de l'Alaska. Une société d'État de transport maritime voulait exclure les fournisseurs canadiens d'un projet de réfection d'un terminal qu'elle loue à Prince Rupert en Colombie-Britannique. Bon, il n'y a pas de limite, semble-t-il. Nous avons été clairs. L'application des dispositions protectionnistes Buy America sur le territoire canadien est inacceptable et constitue un affront à la souveraineté canadienne, a déclaré le ministre canadien du Commerce international, Ed Fast, au moment d'annoncer la signature d'un arrêté en vertu de la loi sur les mesures extraterritoriales étrangères qui donne le droit au Canada de se soustraire à la loi américaine sur son territoire. Ottawa en a profité pour réitérer son espoir de pouvoir convaincre le gouvernement américain de renoncer à ses lois protectionnistes, tant dans le secteur des transports, Buy America, que dans celui des contrats publics au niveau infranational, Buy American, tout en sachant que ces deux domaines font l'objet d'une exception dans les accords commerciaux liant le Canada et les États-Unis. Ça rejoint ce qu'on disait à ce micro, à savoir qu'un traité de libre-échange, c'est tout sauf un traité de libre-échange. En pratique, c'est un traité où on dit qu'est-ce qui ne sera pas inclus dans le libre-échange. Et ça fait des centaines de pages, ce traité-là. Ce sur quoi on peut s'interroger actuellement, c'est qu'on a de grands projets d'infrastructure, par exemple le pont Champlain. Est-ce qu'il ne serait pas plus sain dans cette perspective-là d'exclure les fournisseurs américains de la fourniture de l'acier de ce pont-là, par exemple? Ça semblerait une mesure tout à fait équilibrée avec celle que les Américains nous imposent. Parce que, je vous le rappelle, l'industrie de l'acier au Canada est majoritairement concentrée au Québec, tout comme le fer qu'on produit sur la Côte-Nord. Donc, en pratique, ça va être un sujet à suivre dans les prochains mois, les prochaines années. On se rappelle que le litige entourant le bois d'œuvre, quant à lui, dure une dizaine d'années, ça finit par un compromis, mais léonin, imposé par les États-Unis. Bref, le libre-échange avec les Américains, c'est comme une souris qui dort avec un éléphant dans le même lit où tout le monde a le droit de se tourner. On a des tonnes de brèves, mais je commence tout de suite par une brève qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie et tout à voir avec la survie de la francophonie. Il faut savoir que Aéroports de Paris est présentement à la recherche de manières de revamper son image et elle embauche à cette fin six firmes de publicité pour revoir, entre autres choses, son nom. Et bien, sachez qu'une des propositions sérieusement à l'étude est de renommer l'aéroport Paris Airport.
Alors, j'ai tellement honte de cette nouvelle que j'ai failli en perdre ma voix. Bon, j'essaie de vous dire des choses un peu plus positives. Si vous voulez vendre votre maison, en acheter une, sachez que l'immobilier prendrait un peu de vigueur en 2015, hein, après le recul de 2014. C'est en tout cas ce que prédit la Fédération des chambres immobilières du Québec. Donc, on prévoit une augmentation de 2% pour ce qui est du volume des ventes. Par contre, pour les prix, ça devrait rester stable.
Mm-hmm. Je suis très, très content parce que le soleil de Québec parlait des augmentations de loyers parce que la période des augmentations, des avis d'augmentation s'en vient. Et il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils ont deux choix fondamentalement, c'est-à-dire partir ou accepter l'augmentation. Eh bien, tel n'est pas le cas. Sachez que si vous louez votre logement, le propriétaire doit vous expédier un avis et vous avez 30 jours pour lui répondre. Et vous pouvez lui répondre que vous acceptez l'avis, que vous refusez l'avis ou que vous ne renouvellerez pas votre bail. Si vous refusez l'avis, vous conservez votre logement et ce sera au propriétaire, à vous ou à la régie du logement, de trouver une solution pour fixer le nouveau loyer. Mais dans tous les cas de figure, vous n'êtes pas tenu d'accepter l'augmentation que le propriétaire vous propose ou vous impose.
Bien. Vous savez qu'après la fermeture de Target, des magasins, 133 magasins de Target, là, qu'on a commenté la semaine dernière, eh bien, c'est au tour de Sony qui va fermer tous ses magasins au Canada. Alors, c'est quand même un peu terrible parce que là aussi, eh bien, 17 000 emplois seraient touchés. C'est absolument énorme. Et il semble que cette vague de fermeture pourrait s'étendre à toute l'Amérique du Nord.
Et c'est tout le commerce de détail qui va mal actuellement, notamment à cause d'Internet. Une autre forme de commerce de détail est quant à moi un sommet beaucoup plus important que celui de Davos, le Salon international de l'auto de Montréal, où on voit plein de choses intéressantes, mais follement intéressantes, notamment Hydro-Québec qui se prépare à accélérer, à mettre de plus en plus de bornes de recharge rapide à 400 volts un peu partout sur le territoire avec l'aide de Nissan, et aussi cette nouvelle publiée par Toyota. Toyota qui met à la disposition de tous ses compétiteurs, c'est-à-dire on ne chargera rien si vous les utilisez, 5600 brevets en matière de production d'énergie à partir de l'hydrogène. L'idée est évidemment d'encourager les compétiteurs à se positionner dans cette niche-là parce que plus il va y avoir de modèles, plus il va y avoir d'usagers de ces voitures-là, plus Toyota va pouvoir vendre de ses autos à l'hydrogène.
Les nouvelles de la vente spéciale de Charlie Hebdo, après qu'elle ait eu lieu, finalement, les 1500 exemplaires qui étaient prévus pour le Québec se sont envolés en quelques minutes, pratiquement. Mais il devrait y en avoir d'autres dans les kiosques.
Oui, ça reste une forme de marketing particulièrement coûteuse. Et c'est déjà la fin de cette première heure de l'émission. Ciel, ça passe vite. Non, demi-heure. Demi-heure, oui. Alors, on se voit dans quelques minutes. Restez en onde.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième demi-heure donc. Aux États-Unis, une des priorités du Congrès américain actuellement, c'est de revoir la loi Dodd-Frank. Qu'est-ce que la loi Dodd-Frank? C'est cette bible, en fait, c'est presque aussi gros qu'une loi budgétaire canadienne, c'est vous dire. Cette bible, donc, qui devait resserrer les normes et forcer les banques à se retirer de certains domaines plus spéculatifs, où elles faisaient beaucoup d'argent, mais prenaient aussi beaucoup des risques qui nous ont conduits à la crise de 2008. Alors, l'administration Obama, en arrivant, avait décidé de donner, je dirais, 3-4 bons tours de vis. Alors aujourd'hui, les banques se plaignent qu'elles ne font plus d'argent.
Eh oui, mais les banques, c'est des mal-aimés très ambigus. Hein. Alors vous venez de le rappeler, on sait qu'elles s'enrichissent indûment et qu'elles jouent souvent avec le feu en faisant prendre des risques insensés à toute l'économie. Mais en même temps, on ne peut pas se passer d'elles parce qu'il n'y a pas d'activité sans crédit. Et pourtant les banques se portent mal ces temps-ci aux États-Unis. Alors ça a intéressé Stephen Lower, qui est le correspondant du Monde à New York, et qui a intitulé son article « La rentabilité des banques américaines se dégrade ». Même Goldman Sachs n'échappe pas à la tendance. La plus prestigieuse des banques d'affaires américaines a annoncé vendredi 16 janvier une baisse de 7,1% de son bénéfice net au quatrième trimestre. Comme JP Morgan, Bank of America ou Citigroup, qui ont également publié cette semaine des résultats en baisse, Goldman Sachs est confronté à un environnement de moins en moins favorable. Même si la banque d'affaires a réalisé un chiffre d'affaires meilleur que ce qu'attendaient les analystes, celui-ci a baissé de 12% au quatrième trimestre à 7,69 milliards de dollars pour un bénéfice net de 2,1 milliards contre 2,33 milliards sur la même période de l'année précédente.
Moi, je pleurerai pas sur Goldman Sachs.
J'allais vous inciter à rentrer votre mouchoir. Mais ce qui est intéressant, c'est cette tendance et voir où elle mène. Cette chute s'explique par le fait que Goldman Sachs est beaucoup plus dépendant des activités de courtage que ses principales concurrentes. Or, cette activité a été très chahutée. Nous sommes satisfaits de nos performances au cours d'une année caractérisée par des conditions financières et une économie mondiale mitigée. C'est toutefois félicité Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs. L'impact de cet environnement compliqué est notamment visible dans le fixed income, c'est-à-dire les placements obligataires, les marchés des devises et celui des matières premières. Dans ce domaine, la chute du chiffre d'affaires atteint 29%. Pour Citigroup et Bank of America, la baisse a atteint respectivement 16% et 30%, tandis que JP Morgan a publié un résultat dans cette activité en chute de 14% à périmètre comparable. L'une des explications réside dans le parcours erratique qu'ont connu ces métiers au cours de 2014. Dans un premier temps, les marchés ont fait preuve d'un calme inédit, avec très peu d'activités et donc très peu d'opportunités de revenus, tandis que la fin de l'année a été secouée par une très forte volatilité, notamment en raison de la chute brutale des cours du pétrole. La banque d'investissement n'a pas été non plus épargnée. Pour Goldman Sachs, cette activité a plongé de 16% par rapport au quatrième trimestre de 2013 à 1,4 milliard. La banque d'affaires a compensé en réduisant ses coûts opérationnels de 14%. Ceux-ci ont même baissé de 12% par rapport au dernier trimestre. Les bonus, les fameux bonus, versés au management et aux employés, on en donne aux employés, peut-être pas tous quand même, on en subit les conséquences. Leur montant total a baissé de 11%, les pauvres, un peu moins de 2 milliards. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec 2 milliards aujourd'hui, franchement? Il s'agit du premier poste de dépense quand même pour Goldman Sachs, qui en proportion du chiffre d'affaires, alors tenez-vous bien, vous savez ce que c'est en proportion du chiffre d'affaires? 36,8%.
Oh,
pas mal. Même si Goldman Sachs est parvenu à limiter les dégâts, les résultats des banques américaines montrent une nette dégradation de leur rentabilité. Nous y voilà. Sur l'ensemble de 2014, le bénéfice net de Bank of America a plongé de 58%, celui de Citigroup de 47%. Outre les mauvaises performances dans le courtage, les deux établissements pâtissent de la faiblesse des taux d'intérêt, évidemment, qui pèsent sur la rentabilité de leur activité de prêt. Wells Fargo, la première capitalisation bancaire américaine, moins exposée au courtage, s'en est mieux tirée. Le groupe a dégagé en 2014 un bénéfice net de 23 milliards de dollars, hausse de 5%. Même si la performance a faibli au quatrième trimestre, le bénéfice net reste en hausse de 2% à 5,7 milliards de dollars. Alors maintenant, le nouvel environnement réglementaire, il est pointé du doigt. La rentabilité des banques américaines a été bousculée par les amendes astronomiques qu'elles ont dû payer pour éviter les poursuites judiciaires.
Et qui sont encore des rabais, quant à moi, par rapport à ce que ça a coûté à notre économie.
Ouais, c'est pas faux. Mais enfin, quand même, Bank of America a sorti 16 milliards de dollars. J'espère qu'ils ont été bien utilisés. Il y a sûrement eu des bonus à distribuer avec ailleurs. Le bénéfice de Citigroup au quatrième trimestre ne s'est élevé que à 350 millions de dollars. Contre 2,4 milliards sur la même période de l'année, après avoir provisionné 3,5 milliards au titre des amendes dont elle fait l'objet. Quant à JP Morgan, la pénalité qui lui a été infligée dans le scandale sur les manipulations des marchés de devises a lourdement pesé sur ses résultats. On espère quand même que ça a pesé, non? Ah, la banque a accepté en novembre de payer 1 milliard de dollars aux autorités britanniques et américaines. Par ailleurs, le groupe a payé 100 millions supplémentaires dans un accord à l'amiable avec des investisseurs institutionnels. JP Morgan reste sous la menace de poursuites criminelles sur ce dossier. Mercredi, lors d'une conférence avec les analystes, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, s'est plaint également du nouveau contexte de régulation qui oblige les banques à réduire leurs expositions aux activités les plus spéculatives qui étaient jusqu'à présent les plus lucratives. On dirait un ivrogne qui se plaint de ce qu'on lui impose de moins boire. Mais bon,
ou du prix de l'alcool.
Ouais, par exemple. Les banques sont attaquées, a-t-il lancé, ce qui n'a pas empêché JP Morgan de publier un bénéfice net record de 21,8 milliards de dollars. Même sur la défensive, les banques ont visiblement encore de la ressource. Je ne sais pas si cet article vous impose des idées pour aller négocier avec banquier quand vous avez l'impression qu'on vous a fait acheter un produit pas très net ou pas très rentable, et puis que c'est entièrement votre faute. Mais enfin, c'est quand même une bonne occasion de réfléchir sur tout ça.
Parlons de pratique médicale et plus particulièrement d'une expérience qui se tient en Alberta. Le texte est rapporté par Francis Vaille. Alors, Alberta, qui semble-t-il, remet en cause le caractère d'entreprise privée des médecins. Il faut dire que les Albertains détestent payer des taxes. Ils détestent vraiment ça. C'est une expérience qu'ils vont bientôt connaître, d'ailleurs. Donc, médecin, une expérience albertaine élimine l'attente des patients. Francis Vaille, la presse du 21 janvier. La ville de Taber, en Alberta, a vécu une révolution au cours des années 2000. Le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille a complètement disparu. Le secret, l'abandon de la rémunération à l'acte des médecins. Au Québec, 80 % de la rémunération des médecins est basée sur cette rémunération à l'acte, une pratique que je dénonçais hier. Les actes sont méticuleusement codés et tarifés selon l'âge du patient, la région, l'heure de la journée et le nombre de centimètres d'excision chirurgicale, par exemple. Les manuels de tarification font 1330 pages et les médecins parlent d'un monstre qui coûte cher en administration. En Alberta, les médecins sont aussi rémunérés à l'acte dans une proportion de 80 %. Devant les résultats désolants du système, un projet pilote a été mis de l'avant au début des années 2000 dans la ville de Taber, située dans une région rurale à 2 heures de Calgary. 5 ans plus tard, il a été étendu au reste de la région de Chinook, 156 000 habitants donc. En Alberta, les patients doivent généralement se rendre dans les Primary Care Network pour voir leur médecin de famille. Ce réseau de cliniques de soins de première ligne pourrait s'apparenter à nos groupes de médecine familiale. Parmi les changements d'approche, on a décidé de payer les médecins à salaire fixe, essentiellement, et non plus à l'acte. En retour, ce changement s'est accompagné d'une plus grande exigence de résultats à l'endroit des médecins, question que leur productivité se maintienne. Les résultats de Taber sont spectaculaires. Au début des années 2000, les patients devaient attendre 30 jours pour consulter leur médecin de famille ou un de ses collègues au dossier. Or, ce temps d'attente a été complètement éliminé en 2006 et encore aujourd'hui, les patients peuvent rencontrer leur médecin le jour même. Cet accès rapide aux soins de première ligne a eu des effets bénéfiques sur le réseau, réduisant notamment de presque 20 % le recours à l'urgence. Entre autres, les visites à l'urgence pour des maladies chroniques ont fondu. Au début du projet, par exemple, les résidents de Taber se rendaient à l'urgence 345 fois par année pour leurs problèmes d'asthme. 10 ans plus tard, il n'y a plus qu'une vingtaine de visites par année. Le projet est plus avancé à Taber qu'ailleurs, mais il y a aussi une nette tendance à l'amélioration dans l'ensemble de la région de Chinook, nous explique l'âme dirigeante du projet, le Dr. Robert Vedel. Selon ses dires, les résultats sont si probants qu'il y a des pourparlers pour étendre le modèle ailleurs en Alberta et même dans d'autres provinces. Comment la clinique de Taber, qui compte 20 000 patients, y est-elle parvenue? D'abord, on a décidé de rémunérer les médecins à salaire fixe pour un panier de services précis, comme les services ambulatoires, les chirurgies mineures, les fractures et les soins prénataux. Les accouchements et les chirurgies majeures continuent d'être payés à l'acte, compte tenu de leur nature imprévisible et longue. Les soins prodigués après les heures normales d'ouverture sont encore sujets au paiement à l'acte aussi. On a également associé à la clinique Taber un nombre précis de patients. Une fois la liste établie, la clinique a eu pour mission de s'organiser pour être en mesure de rencontrer les patients selon leurs demandes. Si un patient est obligé de se rendre ailleurs pour des soins, c'est son médecin de famille qui paie la facture. Pour parvenir à leur fin, les médecins de la clinique de Taber ont eu davantage recours aux infirmières, aux pharmaciens et aux autres professionnels de la santé. Le budget de la clinique a d'ailleurs été augmenté d'environ 11 %, 62 $ par patient, pour lui permettre d'embaucher, mais des économies ont été dégagées ailleurs dans le réseau grâce aux résultats. Une collaboration étroite s'est avérée essentielle entre les intervenants de la clinique. Ce travail en équipe s'est trouvé encouragé du fait que le médecin n'est plus payé selon qu'il fait ou non un acte médical, mais plutôt si le patient reçoit des services. La clinique a également fait un suivi serré des maladies chroniques, en grande partie responsable des consultations à l'urgence, grâce à un système informatisé au point. Les patients à risque reçoivent d'ailleurs des appels téléphoniques pour leur rappeler l'importance de prendre rendez-vous. En réorganisant les façons de faire, les patients se sont mis à fréquenter moins souvent leur médecin, 2,1 visites par année plutôt que 5,6 ailleurs, ce qui a dégagé des disponibilités pour les autres patients. Les autres professionnels de la santé, pour leur part, ont vu la fréquentation pour leur service s'accroître de 50 %. les médecins sont devenus directement responsables des résultats, ce qui a amélioré la qualité des actes. Par exemple, si un plâtre pour une fracture est mal fait, le médecin n'est pas payé de nouveau s'il refait le travail, comme c'est le cas lorsqu'il est rémunéré à l'acte. Un profond changement de culture a été nécessaire, mais aujourd'hui, les employés sont satisfaits, comme les patients d'ailleurs. N'y a-t-il pas dans le projet Tabor une source d'inspiration pour notre système? J'espère que Gaëtan Barrette est à l'écoute. Je trouve ça très intéressant.
Estrelas vestem meus pés. Eu acho que estou feliz e triste. Tudo que eu tenho cabe na minha
C'était C'est Oumar. Un petit mot sur Microsoft. Microsoft qui se prépare à mettre en marché des lunettes de réalité augmentée. C'est-à-dire que dans les verres de vos lunettes, vous allez voir un objet en trois dimensions devant vous avec lequel vous allez pouvoir interagir. Par exemple, projeter artificiellement votre clavier sur une table et taper les touches comme si vous étiez sur un vrai clavier. Alors, c'est une nouvelle lunette électronique et ça nous introduit évidemment aux Google Glass qui seront bientôt les RIP Google Glass.
Oui, alors, oui, c'est ça qu'ils sont déjà pratiquement. Je ne sais pas si cette lunette de Microsoft pourra se substituer à celle que Google renonce à mettre sur le marché, mais j'ai trouvé très intéressant de remonter un peu la chronologie de cet échec. C'est ce qu'a fait un journaliste anonyme d'ailleurs, mais d'une revue spécialisée qui s'appelle ZNet. Et c'est un peu comme un film, c'est assez amusant. Ça commence en janvier 2012. Google fait rêver la planète. Google dévoile son nouveau projet de lunettes à réalité augmentée. Et elle commence par juste souhaiter lancer une discussion avec les internautes sur l'utilité de cette technologie. Alors ça fait saliver tout le monde. Et quelques mois plus tard, lors d'une conférence, Sergey Brin présente les fameuses lunettes et on pouvait les acheter, enfin les préacheter pour 1 500 $. Et tout le monde pensait évidemment qu'elles seraient livrées en 2013. Alors voyons voir comment ça se passe à partir de 2013, de mars 2013. Premier doute, la possibilité d'enregistrer des vidéos ou du son et du son grâce à des lunettes et ce de manière simple, voire automatique. La perspective inquiète un sénateur australien qui s'appelle Cory Bernardi, qui voit dans les Google Glass la fin de la vie privée. C'était déjà largement avancé. Mais bon, de son côté, un député républicain de Virginie-Occidentale, on ne dit pas si c'est vous m'avez compris, il dépose une proposition de loi visant à interdire de les porter en conduisant une automobile. Bien, alors avril 2013, premier retard, alors que les premiers testeurs reçoivent actuellement le nouvel appareil, le moteur précise un peu le calendrier de lancement de l'objet. Le géant évoquait une commercialisation en 2013 et Eric Schmidt, qui en est le directeur, met les points sur les i en soulignant que finalement on ne les lancerait pas avant 2014. Mai 2013, arrivée des analystes. Ils sont sceptiques. Malgré le battage médiatique autour de la grande nouveauté Google, il semblerait que le public soit sceptique. Dans une étude réalisée par BIT Interactive aux USA, on apprend que chez les propriétaires de smartphones, seulement 10% sont partants pour porter ce gadget de demain. Et selon des prévisions d'adoption plus poussées, 38% des personnes interrogées ne souhaitent pas avoir de Google Glass, même si le prix est abordable. Mais dites-moi, il y a une espérance pour sauver l'humanité, c'est formidable. 45% des sondés craignent que ce nouvel appareil soit contraignant à porter et socialement inadapté. Ah, parce que le smartphone, c'est pas socialement inadapté. Bon, passons. Enfin, 44% ne trouvent pas le produit attrayant, tout simplement. Juin 2013, les autorités s'en mêlent. Ah, là aussi, un peu d'espoir. Les directeurs de 6 autorités de protection des données personnelles ont contacté Google et demandé dans une lettre de plus amples détails. Alors, il s'agit de qui ? Ah, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Suisse et Israël. Les commissaires souhaitent, je ne sais pas si le Canada y est allé parce qu'Israël y allait, mais en tout cas, il y est allé. Les commissaires souhaitent savoir notamment comment Google entend collecter des données via ses lunettes connectées et le lien entre cette collecte et la nouvelle est très décriée. Politique de confidentialité du géant. Rappelons que cette politique, ça consiste à piquer vos données pour vous les revendre. C'est quand même ça la base du système Google. Juillet 2013, alors Google tente de rassurer. Bon, ça c'est Munich. Face à ces inquiétudes, Google se veut rassurant, vantant notamment son attachement à la protection de la sécurité et de la confidentialité de ses unités. On se marre quand on lit ça. Fort heureusement, Google avance d'autres arguments que cette laudative déclaration qui est, on le sait, régulièrement battue en brèche. Dans sa lettre, Google précise que l'utilisation des Google Glass sera soumise aux mêmes règles de confidentialité de ses autres services. Selon moi, c'est ça qui devrait faire peur, mais bon. Or, en Europe, cette politique est attaquée par l'article 29 qui la juge contraire à la législation européenne car permettant notamment des croisements massifs de données. Évidemment, c'est difficile d'y voir une garantie de confidentialité. Janvier 2014, premier test, première déception. Alors, est-ce que les Google Glass sont-elles une machine à cash pour le géant de la recherche ? Les avis divergent. Mais pour Robert Scoble, alors vous le connaissez peut-être, c'est un très très célèbre blogueur expert de la planète IT, la réponse est non en l'état. D'ailleurs, la complexité de l'objet et notamment sa prise en main exigeront un conseil personnalisé en magasin et conseil qui pèsera mécaniquement sur le prix de l'objet. Ce service maintiendra le prix élevé et fera qu'il ne se vendra pas bien. Selon problème de taille, le catalogue applicatif. Malgré les déclarations de nombreux géants du web, le blogueur épingle le manque de stars à ce stade. Les premiers acheteurs vont se demander où est Foursquare. On doit craindre l'attentisme des développeurs, d'autant plus que les glaces n'ont pas d'App Store, ce qui n'est pas très positif. Je fais une parenthèse pour vous rappeler que les applications, ce sont des bactéries qui sont en train de détruire Internet. Parce qu'elles ne sont pas interactives, elles sont payantes et petit à petit, elles seront les seules. Et vous aurez fini de recevoir des services gratuitement. Vous ne vous en rendez pas compte, vous croyez que c'est bien, mais c'est une erreur. Bon, je ferme ma parenthèse. Mai 2014, dispo pour tous. Jusqu'à présent, Google contrôlait le nombre d'acquéreurs de ses lunettes connectées, les Google Glass, avec une priorité accordée aux développeurs d'applications. L'objectif étant de créer un écosystème autour de cet objet connecté. Désormais, l'édition des Glass Explorer des lunettes est disponible pour n'importe quel consommateur prêt à débourser 1 500 $. Mais en juillet 2014, Babak Parviz, qui est un des responsables du projet, démissionne. Eh oui. Et il va chez Amazon. Bon. Novembre 2014, les développeurs quittent le navire. Il y en avait 16. Eh bien, 9 d'entre eux ont arrêté leur développement. Enfin, 16 majeurs, disons, chefs d'équipe. Et ça veut dire qu'ils n'y croient plus. Et en novembre 2014, les boutiques ferment. Il y avait on appelait ça des glass base camps. C'était des boutiques où les clients pouvaient venir tester le matériel, etc. Eh bien, rideau, on ne peut plus y aller. Il n'y a plus de Google Glass. Alors, évidemment, il y a eu des explications de Google, alors complètement farfelu, où on explique que c'est parce qu'on s'est trompé qu'on avait raison et parce qu'on a raison qu'on s'est trompé. Bon, enfin, je vous passe les détails parce que c'est pitoyable. Mais finalement, quand même, ces explications un peu capillotractées, on peine à dissimuler un certain malaise autour de cet objet. Et c'est finalement quelque chose qui est bien trop émergent. Officiellement, Google annonce qu'il est toujours investi dans ce produit et le directeur des opérations, le fameux Chris O'Neill, insiste. Il dit que la firme a la ferme intention de faire son lancement auprès des consommateurs. Cela prendra du temps et nous ne lancerons pas ce produit tant qu'il ne sera pas absolument prêt, ajoute-t-il. On a entendu ça pour bien des avions à réaction.
Encore des brèves. Je commence avec deux. Je me sens en coller deux comme ça pour vous parler de vos maisons. D'abord, il faut savoir que les maisons sont trop chères au Canada. Ça en est au point où j'hésite à m'acheter un château à Laval. En termes clairs, qu'est-ce que ça veut dire trop cher? Eh bien, il faut savoir que, par exemple, sur le marché d'Ottawa-Gatineau, si vous voulez vous acheter une maison, vous allez payer 3,7 fois votre revenu annuel. À Sherbrooke, c'est 4. À Québec, c'est 4,1. À Montréal, c'est 4,3. On se console toutefois, puisque parmi les deux plus chers, il y a Hong Kong qui était au-dessus de 10, et Vancouver, qui est la deuxième au monde pour le marché, et qui est aussi au-dessus de 10 fois le revenu annuel pour se payer une maison.
D'accord, François, mais quand même, rappelez-vous que Montréal, une maison à Montréal, c'est à peu près 3 fois moins cher qu'à Paris.
Et une des raisons pourquoi les maisons sont trop chères, c'est les taux d'intérêt qui sont trop bas. Puisque les taux d'intérêt sont bas, il n'y a plus d'acheteurs. Et s'il n'y a plus d'acheteurs, bien évidemment, les prix montent. C'est ce qui m'amène à vous parler de mon deuxième sujet immobilier. Si vous avez une maison et des enfants et que vous payez du pop-corn à vos enfants au cinéma, il faudrait penser à remercier le roi d'Arabie Saoudite qui a mauvaise presse ces temps-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que la Banque du Canada, qui est aux prises avec la baisse du prix du pétrole, veut revamper, doper l'économie, a donc abaissé encore son taux d'intérêt directeur à 1,75. Ce taux directeur-là s'abaissant, eh bien, c'est votre hypothèque qui ne remonte pas à ce moment-là, et donc vous payez moins cher pour loger vos enfants, et donc vous avez les moyens de leur payer du pop-corn au cinéma. C'est tout un avantage.
Formidable, d'autant plus qu'aux USA, qui est tout près, les prix à la consommation ont accusé leur plus fort recul depuis 6 ans en décembre. L'indice des prix à la consommation a baissé de 0,4% en données corrigées des variations saisonnières, comme on dit en économie. Et c'est amusant parce que ça avait été prévu. Alors ça, je tiens à le saluer.
Nouvelle sur la guerre des monnaies, tiens. Le franc suisse, qui était une valeur refuge, qui a longtemps été une valeur refuge et qui est aujourd'hui encore une valeur refuge. Il faut savoir que le franc suisse, qui est très en demande, donc, les Suisses avaient une politique qui consistait à stabiliser le niveau de leur monnaie à 1,20 € pour un franc suisse. Ils mettaient énormément de cash pour que ça reste à 1,20. Mais là, ils ont bien vu que les Européens se préparaient à dévaluer leur monnaie, notamment en émettant et en rachetant des valeurs. Alors, ils n'ont pas eu le choix s'ils veulent maintenir leur politique. Ils doivent laisser flotter le franc suisse. Or, le franc suisse a bondi de 20% en une journée quand ils ont abandonné cette politique-là. Ça, si vous êtes un exportateur suisse, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vos produits à l'étranger coûtent 20% plus cher, et que vos clients locaux, eux, vont aller acheter des produits en France à côté puisque c'est moins cher. Alors, en attendant, à Davos, si ça peut vous consoler, une simple pizza au fromage se vend 28 $ canadiens.
Elle doit être bonne. En tout cas, moi, je voudrais vous donner quelques nouvelles des grands de ce monde. On est toujours très intéressés. Le prince William et son petit garçon George, tellement mignon, etc. Eh bien, il a reçu des cadeaux pour son anniversaire. Combien? 523, hein? C'est pas mal. Non, ça, c'était juste en provenance d'Australie. Je vous ai bien eu. En fait, il y en a eu 706. Et sa grand-mère était très jalouse parce que elle-même, quand elle avait 1 an, elle n'en avait reçu que 100. C'est quand même incroyable. Oh là là.
Élections en Grèce. On vous en parlait avec l'avenue prochaine d'un gouvernement éventuellement socialiste, puisqu'on domine toujours dans les sondages, et la renégociation de la dette qu'on promet de faire. Ben, les menaces continuent à se multiplier. Christine Lagarde du Fonds monétaire international a rappelé aux Grecs cette semaine qu'une dette est une dette. Bref, on positionne ses pions actuellement pour une négociation âpre. Ça va être quelque chose l'an prochain qui va être à suivre, notamment si vous êtes italien, portugais, Bref, les nations qui ont généreusement bénéficié de plans d'aide qui les ont mis sur la paille.
Ah, moi, j'ai deux mauvaises nouvelles pour compléter les vôtres, François. La première, ça, c'est terrifiant. Vous savez que vous avez vu ce rapport qui s'appelle « Liste des cas de pollution » qui a été fait par Transport Canada, où on apprend qu'il y a un déversement d'hydrocarbures tous les 10 jours dans le Saint-Laurent. Hein, mm-hmm. C'est quand même terrible. Et en tout, ça fait 334 entre février 2002 et novembre 2012. Bon, d'accord, un quart sont de 10 à 50 000 litres et le dernier quart est, tenez-vous bien, de quantité inconnue. On en frémit. Et ma deuxième mauvaise nouvelle, c'est que lundi dernier, vous savez, c'était la journée la plus déprimante de l'année. On appelle ça le Blue Monday. Ça correspond au troisième lundi du mois de janvier parce que c'est là qu'on réalise qu'on a trop dépensé pour Noël, qu'on a de la difficulté à tenir ses résolutions, que la météo est moche et qu'on voudrait partir en voyage. C'est très sérieux. C'est une théorie qui a été avancée par un psychologue qui s'appelle Clive Arnall de l'université de Cardiff. Mais ses travaux ont été financés par l'agence de voyage Sky Travel. Ah zut!
Oui, mais ça, c'est un concept américain, voyez-vous. On sait bien ici au Canada que le mois le plus long de l'année, c'est février, malgré ses 28 jours, pour des raisons évidentes. Eh bien, vous l'entendez, l'indicatif nous signale que c'est déjà la fin en ce qui nous concerne. On va donc céder le micro à Clotilde Desailles. On remercie Rémi, tiens, qui a été à la mise en onde et qui nous a pas trop coupé cette semaine. malgré qu'il ait eu des raisons de le faire à de multiples reprises. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Éric.
Merci, François. À la semaine prochaine.